VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriac au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du vendredi 24 avril 2015. Au sommaire ce matin.
En Guinée, un partisan de l'opposition a été tué jeudi à coups de matraque lors d'une manifestation. C'est du moins ce qu'affirme une source hospitalière et des témoins.
Présidentielle togolaise, la campagne électorale a pris fin hier soir à minuit.
Nous sentons depuis quelques jours une aspiration au changement. Nous voyons que les populations sont mobilisées.
Au Yémen, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a poursuivi ses frappes aériennes la nuit passée contre les insurgés chiites.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
En Guinée, un partisan de l'opposition a été tué hier à coups de matraque et quatre autres ont été blessés par les forces de l'ordre qui tentaient d'empêcher une manifestation à Labé, fief de l'opposition dans le centre-nord du pays. C'est ce qu'affirme une source hospitalière et des témoins cités par l'AFP. Le gouvernement a pour sa part confirmé le décès d'Ousmane Ba, 28 ans, dans des circonstances difficiles à déterminer, affirmant qu'il aurait trouvé la mort après avoir reçu un projectile au niveau des cervicales. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête, précisant que le calme est revenu à Labé dans l'après-midi.
Violence au Mali, le chef de Dogo, village du centre du pays, a été assassiné par des hommes armés. C'est ce qu'ont fait savoir hier le gouvernement et la famille de la victime. Issa Diko, 62 ans, a été abattu mercredi par deux jeunes islamistes venus à son domicile à moto, a déclaré son frère à l'AFP.
Et c'est dans ce contexte que le chef de la mission de l'ONU au Mali a exprimé son espoir de voir la rébellion à dominante Touareg du nord du Mali signer l'accord de paix d'Alger avant l'échéance du 15 mai.
Présidentielle togolaise, la campagne électorale a pris fin hier soir à minuit. À Lomé, la capitale, les deux principaux candidats, le président sortant fort Gnassingbé et le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, ont tenu leur dernier meeting. Ne manquez pas le reportage de notre correspondante sur place en seconde partie d'émission.
Au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'apprête à désigner samedi son candidat à la présidentielle de juin. L'opposition appelle à manifester en masse contre la candidature du président sortant Pierre Nkurunziza. Pourquoi ce samedi est un jour de tous les dangers pour le Burundi? Idriss Fall a joint à Bujumbura Noël Kurunziza, représentant de Transparency International.
C'est un samedi qui sert au Burundi parce qu'il est programmé une assemblée des membres du parti au pouvoir. Et lors de cette assemblée, on devra élire le candidat qui devra être présenté comme candidat au présidentiel. Et il y a de fortes chances que ce soit le président actuel qui reviendrait pour faire encore 5 ans après les 10 ans qu'il vient de diriger le pays, ce qui est contraire aux accords d'Arusha et de la Constitution.
Regain de tension à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. 3 agents de la mission de l'ONU au Congo ont été enlevés jeudi après-midi à Kibumba, dans le Nord Kivu. Incident qui intervient alors que les autorités congolaises dénoncent l'infiltration d'une centaine de militaires rwandais du côté de Kibumba, en territoire de Nyiragongo, zone où opèrent des rebelles hutus rwandais, FDLR, au président rwandais Paul Kagame. Par ailleurs, selon les forces armées de la RDC, un soldat congolais a été blessé mercredi dans un échange de tirs avec des troupes rwandaises à une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma.
Et puis les avocats du barreau de Lubumbashi menacent de déclencher une grève sans préavis si le bâtonnier Jean-Claude Muyambo, en détention depuis le 20 janvier dernier à Kinshasa, n'est pas libéré.
L'ex-président tchadien Hissène Habré sera jugé au Sénégal à partir de juin, a affirmé hier le ministre sénégalais de la Justice, Bagassi Koura.
Maître Sidiki Kaba a annoncé que d'ici 2 mois, lorsque les juges seront imprégnés du dossier, on entrera dans la phase active du procès, ajoutant que sans doute ça va être au mois de juin. Le ministre s'exprimait à Dakar lors de l'installation des juges des chambres africaines extraordinaires. Ce tribunal spécial chargé de juger Hissène Habré, la cour sera présidée par le juge burkinabé Perdao Gustave Kam, qui sera assisté de 3 magistrats sénégalais. Ils ont été nommés par l'Union africaine qui a demandé au Sénégal d'organiser ce procès. Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Mais le ministre Kaba a précisé que si l'accusé est reconnu coupable, il ne sera jamais condamné à mort parce que le Sénégal a aboli la peine de mort en 2008.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Drame de l'immigration en Méditerranée, l'Union européenne s'engage à tripler le budget de ses opérations de patrouille en mer pour prévenir de nouveaux naufrages, le budget actuel étant de 3 millions d'euros par mois. De son côté, le président français, François Hollande, a annoncé qu'une résolution allait être présentée à l'ONU pour pouvoir détruire les bateaux de trafiquants en Méditerranée.
Le Croissant-Rouge libyen rapporte que depuis mai 2014, plus de 500 000 personnes ont été déplacées par les violences qui ravagent la Libye. Jean-Roger Billon.
D'après le Croissant-Rouge libyen, les combats ont chassé de leurs maisons plus d'un demi-million de personnes entre le 14 mai 2014 et début avril 2015. La capitale Tripoli a reçu plus de 126 000 déplacés et Benghazi, la deuxième ville du pays, 110 000, la plupart vivent dans des camps ou des écoles. Ce sont les premiers chiffres publiés par le Croissant-Rouge libyen, mais ils ne prennent pas en compte les personnes ayant trouvé refuge chez des parents ni celles qui ont fui le pays. Le HCR estime à 100 000 le nombre de réfugiés libyens. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye a plongé dans la violence et le chaos politique avec deux parlements et deux gouvernements rivaux. L'un proche des milices Fajr Libya est basé à Tripoli, l'autre siégeant à Tobruk est reconnu par la communauté internationale.
Au Yémen, pas de répit dans les raids contre les insurgés chiites. La coalition menée par l'Arabie Saoudite a poursuivi ses frappes aériennes la nuit passée. C'est ce qu'affirment des témoins cités par l'AFP. L'arrêt total des frappes étant une condition à la reprise des pourparlers sous l'égide des Nations Unies, Riyad avait annoncé cette semaine la fin de la campagne aérienne. Au plan diplomatique, l'ONU a annoncé hier la nomination d'un nouveau médiateur chargé de mettre fin à un conflit qui a déjà fait plus de 1000 morts.
C'est aujourd'hui le 100e anniversaire du génocide arménien. Entre 1915 et 1917, les Turcs ont massacré 1,5 million d'Arméniens et des centaines de milliers de personnes sont attendues à Yerevan pour une cérémonie commémorative.
Le Sénat américain a finalement entériné par 56 voix contre 43 la nomination de Loretta Lynch au poste d'attorney général, 5 mois après qu'elle a été choisie par le président Barack Obama pour devenir la première ministre noire de la justice de l'histoire des États-Unis. Des précisions de Michel Joseph.
Madame Lynch remplace à ce poste Eric Holder, également le premier Africain-Américain à assumer de telles fonctions. Diplômée de Harvard, tout comme M. Obama, Loretta Lynch a une solide réputation de procureur dont l'approche est caractérisée par le pragmatisme. Malgré tout, elle a été l'otage des désaccords politiciens entre la Maison-Blanche et des parlementaires républicains qui lui reprochent son soutien au décret pris par M. Obama sur l'immigration aux États-Unis. Il y avait aussi des accords au Sénat même entre républicains et démocrates sur un amendement anti-avortement inclus dans un projet sur la lutte contre le trafic des êtres humains. Toutes les nominations du président, selon la Constitution américaine, doivent être approuvées par le Sénat. En réaction au vote d'hier, Barack Obama s'en est félicité, déclarant que c'est une bonne nouvelle pour l'Amérique qui doit régler des problèmes dans les domaines de la réforme, de la justice criminelle, du cybercrime et de la sécurité nationale. Il faut dire que Mme Lynch va hériter de cas de droit civique brûlants suite à des confrontations mortelles entre la police et des Noirs non armés dans plusieurs villes des États-Unis, dont il y a quelques jours Baltimore, dans le Maryland, non loin de Washington.
Oui, et nous restons justement aux États-Unis où plus de 200 personnes ont manifesté hier dans le centre de Baltimore, dans l'est du pays, pour marquer leur colère et leur frustration après le nouveau décès de Freddie Gray, cet homme noir de 25 ans blessé lors de son arrestation.
Enfin, la Suisse est le pays le plus heureux du monde. C'est ce que révèle une étude internationale sur le bonheur, publiée hier à New York. Les États-Unis sont 15e. Parmi les 10 pays les moins heureux, on compte beaucoup de pays africains. Le Togo, 158e, Burundi, 157e, le Bénin, 155, le Rwanda, 154, le Burkina Faso, 152e, la Côte d'Ivoire, 151e, la Guinée, 150e et le Tchad, 149e. Pour arriver à leur conclusion, conclusion, les chercheurs ont étudié l'espérance de vie en bonne santé, le PIB par habitant, le soutien social, la confiance mesurée par la perception d'une absence de corruption politique ou dans les affaires, la perception de liberté dans ses choix de vie et la générosité.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Camille Grosdidier.
Maurice est devenu le premier État membre du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le COMESA a signé la charte sociale du COMESA. Cet instrument vise à créer un environnement social et économique propice, basé sur l'égalité des sexes, l'équité, l'égalité de traitement et l'égalité des chances, ainsi que le maintien du développement durable dans les États membres et dans la région. Et puis, à l'occasion des réunions de printemps Banque mondiale, Fonds monétaire international, le président guinéen Alpha Condé, la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et le président de la Sierra Leone Ernest Bai Koroma ont présenté un plan Marshall de 8 milliards de dollars aux responsables internationaux du développement. Il s'agit pour les trois chefs d'État de relancer l'économie de leur pays, lourdement pénalisée par l'épidémie de fièvre à virus Ebola, alors que les institutions de Bretton Woods planche sur le programme. Une femme d'affaires, Tigi Danke Mounir Kamara, évoque l'impact de l'épidémie sur les sociétés minières qu'elle dirige en Guinée, le Tigi Mining Group et le Kamara Diamond and Gold Trading Network.
Comme toute société en général, il y a eu un ralentissement très avancé dans nos activités. Certains même ont cessé parce que c'était quand même effrayant. Mais avec l'aide du gouvernement et des États internationaux, le phénomène d'Ebola commence à être un peu plus maîtrisé.
Et signalons que Maputo, la capitale du Mozambique, va accueillir du 7 au 8 mai la quatrième édition de la conférence annuelle Powering Africa sur l'approvisionnement en énergie du continent.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Camille. On passe au sport avec Bagessikoura. Bonjour Bagessi.
Oui, bonjour Morgane.
En football, quart de finale retour de la Ligue Europa.
Qualification de Séville après son match nul 2-2 face au Zénith Saint-Pétersbourg. Naples a éliminé VfL Wolfsburg sur le même score de 2-2. À l'aller, les Italiens l'avaient emporté par 4-1. La Fiorentina a dominé le Dynamo de Kiev 2-0 et l'autre club ukrainien, Dnipropetrovsk, s'est qualifié face au FC Bruges, battu 1-0. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce vendredi à la mi-journée au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.
Un stade olympique d'une capacité de 60 000 places à Abidjan.
Oui, c'est un don de la Chine et sera construit à partir de 2016 en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Une cité olympique sera également construite autour du stade bâti sur une superficie de 20 hectares dans la commune d'Anyama. C'est au nord d'Abidjan, c'est ce qu'a indiqué à l'AFP le service de communication du ministère des Sports. Les travaux d'une durée de 24 mois débuteront en janvier 2016 selon le communiqué du gouvernement ivoirien.
Les éléphants, les champions d'Afrique, n'ont pas encore vu la couleur de leur prime.
Oui, et certains commencent à ne plus supporter cette longue attente à l'image de Geoffroy Seridier. Nous n'avons pas reçu nos primes de match, dit-il. Il y a des joueurs dont je fais partie qui n'ont pas eu leur argent. Nous avons gagné la CAN. On nous doit de l'argent. Il faut payer, a déclaré le milieu de terrain des éléphants ivoiriens dans un entretien paru ce jeudi.
En basketball, Kawhi Leonard désigné meilleur défenseur de la NBA.
L'ailier fort des San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, a été élu meilleur défenseur de la NBA. Leonard, 23 ans, succède au pivot franco-américain des Chicago Bulls, Joakim Noah, le fils de l'autre, distingué à l'issue de la saison 2013-2014. Leonard, élu meilleur joueur de la finale 2014, remporté par son club. Et pour terminer, Morgan, quelques résultats des playoffs.
Cleveland-Boston, 103-95. Golden State, New Orleans, 123-119. Chicago-Milwaukee, 113-106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie pour cette édition du vendredi 24 avril 2015. Place au dossier du jour. Les Togolais votent pour élire leur futur président samedi. La campagne s'est terminée hier. L'occasion pour 5 candidats de maximiser leurs chances avant le jour J. Retour sur ce dernier jour de campagne avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Pour ce dernier jour de campagne, CAP 2015 a sorti le grand jeu à Lomé. Plus de 8 heures de caravane distante sur des milliers de mètres. Jean-Pierre Fabre et sa suite ont parcouru les différentes artères de Grand Lomé. La vague orange a achevé sa course au stade Omnisport de Lomé, archi-comble pour cette ultime sortie du candidat de CAP 2015.
Nous descendons depuis l'extrême nord. Nous sentons depuis quelques jours une aspiration au changement. Nous voyons que les populations sont mobilisées vers l'objectif final, qui est la victoire des forces de changement.
Initialement annoncé à Cara pour le dernier jour de sa campagne, le président sortant n'a pas fait le déplacement de sa ville natale. Tout comme son challenger, Fonia Singbe a battu campagne dans le Grand Lomé avec des meetings dans 3 cantons dans les banlieues de Lomé.
Si j'ai tenu à faire tous ces cantons, c'est pour vous expliquer que ce que nous avons commencé dans la commune de Lomé, nous allons l'étendre aux cantons environnants. Nous commencerons par renforcer la sécurité dans ces quartiers qui ne sont pas toujours éclairés. Nous allons construire et réhabiliter les salles de classe.
Le candidat notaire est retourné dans son Sokodé natal pour clôturer sa campagne. Même si le candidat du MCD met la justice au centre de son programme de société, Maître Mohamed Tchassona Traoré n'a pas manqué de fustiger la dynastie présidentielle au Togo.
Ce pays est indépendant depuis 55 ans. Quand vous regardez un peu notre évolution en comparaison avec nos voisins, le Ghana à côté, le Bénin à côté, au moins dans ces pays, ils ont compris qu'une seule famille à la tête de l'État, et ils ont fini avec. Ici, après le père, on a le fils. Les gens ont pris le pays comme s'ils en avaient obtenu un titre foncier et ils le gardent ad vitam, transformant tous les citoyens togolais en presque des sujets.
Retour à la terre natale, c'est ce que le professeur Aimé Gogué, candidat de Hadi, a aussi fait en ce dernier jour de campagne. Le natif de Dapaon dit mieux incarner l'aspiration du peuple togolais pour l'avènement de l'alternance dans le pays.
Nous avons l'impression que certains se contentaient du titre d'opposant. Mais pour nous, nous devons passer à une autre étape qui consiste à avoir véritablement l'alternance pour mettre fin à l'hégémonie, au pouvoir d'unir. La population veut une alternance qui signifie également changement de personnes, mais surtout changement de la manière de gouverner, de diriger ce pays.
Directement, le plus jeune des candidats a pendant ces 14 jours apporté un message articulé autour de 3 pôles. Même message délivré ce 23 avril à Thiévier, à une trentaine de kilomètres au nord de Lomé.
La première, c'est le développement économique inclusif. Que les 4 ou 5% de taux de croissance profitent réellement à l'ensemble des Togolais. Nous insistons avant tout sur l'emploi des jeunes. Nous voulons, avec notre programme, pouvoir créer 100 000 emplois dès la première année de notre gouvernance. Le deuxième, c'est les réformes politiques constitutionnelles et institutionnelles. Avec l'organisation des élections locales dès février 2016. Et le troisième, il faut régler le problème des fonctionnaires dès novembre 2015 avec la possibilité d'augmenter de 30% des salaires l'ensemble des fonctionnaires.
Pendant la dizaine de jours qu'a duré la campagne électorale, l'ambiance était bon enfant, ce qui tend à rassurer les populations qui veulent rompre avec le cycle élection, contestation, violence. Kayi Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
En République démocratique du Congo, la reprise des combats dans la province du Nord Kivu a fait plus de 60 000 déplacés le mois passé, selon les organisations humanitaires. Toutefois, le nombre total de déplacés est en baisse, si bien que le gouvernement compte fermer plusieurs camps autour de Goma, la capitale provinciale. Notre correspondant Nick Long s'est rendu dans l'un de ces camps. Voici son reportage restitué par Lionel Gaïma.
Au camp de Mugunga 3, près de Goma, Justin Massoudi, âgé de 62 ans, et sa famille vivent sous une tente depuis 2008.
Pour moi et ma famille, je n'ai pas encore de place à rentrer. Je n'ai pas une place, puisque mes chats sont déjà spoliés à Walikale, là où je suis venu. Il y a des ennemis, une fois si j'arrive encore là-bas, c'est pour me tuer. Moi, je reste ici aux mains des ACR.
De nombreux déplacés aimeraient retourner dans leur localité d'origine, affirme Justin Massoudi.
Oui, presque 60% des déplacés d'ici à Mugunga voulaient rentrer chez eux, hein, ou bien aller rester ailleurs, quel n'importe où. Comme moi qui suis venu de Walikale, je peux changer.
Par le passé, lorsque le gouvernement fermait les camps, il ne se présentait que deux options aux habitants, s'intégrer dans les communautés voisines ou rentrer chez eux. Mais ces derniers mois, une troisième option est de plus en plus offerte, la réinstallation, qui permet aux déplacés de refaire leur vie ailleurs. Selon le président congolais Joseph Kabila, cette option devrait contribuer à moderniser les conditions de vie dans les zones rurales. C'est ainsi que le HCR a demandé aux 17 000 personnes déplacées des environs de Goma où elles veulent se rendre à la fermeture de leur camp. Patrice Awansu travaille pour l'agence onusienne.
Environ 50% des déplacés veulent s'installer ailleurs, dont 2% veulent s'installer autour de Goma et 46% veulent rentrer chez eux.
Justin Massoudi s'est inscrit au programme de réinstallation, mais il dit avoir besoin de transport, des rations alimentaires pour un certain temps et aussi d'un abri.
Le moyen de transport, il n'y en a pas, on n'amène pas de véhicule. Encore le kit là, il y a les agents qui veulent détourner ça. Ils font dire aller à Ruchu, il arrive là-bas, on ne donne pas de kit. Aussi des rations, au début c'est toujours difficile, il faut un peu de la ration pour rester là-bas, il n'y a pas de maison.
Pour Chantal Kambimbi, une autre habitante du camp de Mugunga 3, le dernier mot revient aux autorités.
Ça revient au gouvernement de dire, ici il y a une école, il y a un centre de santé, ici il y a la route, il y a un marché, il y a ceci, pour que l'on puisse délocaliser ces gens et les amener vers ces milieux-là.
Les travailleurs humanitaires avertissent qu'il faut assurer une bonne planification, un bon financement tant pour les réinstallations que les retours dans les villages d'origine. Une attention particulière doit être accordée aux personnes âgées et vulnérables vivant actuellement dans les camps, souligne-t-il.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Fin mars, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, avertissait le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il n'y avait pas eu de progrès tangible en un an pour résoudre le conflit dans cette région, au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Dans un nouveau rapport intitulé « Le chaos du Darfour », l'International Crisis Group fait le même constat. On écoute l'analyste de l'ICG, Jérôme Toubiana.
Ce qui se passe, c'est un petit peu une guerre de tous contre tous. Ce qu'on voit, c'est que le conflit, qui au départ était quand même d'abord un conflit entre gouvernements et groupes rebelles, est devenu un conflit entre des communautés extrêmement diverses, parfois à l'intérieur même d'une même communauté, et que toutes ces communautés, au cours de ce conflit, beaucoup d'entre elles en tout cas, ont réussi à acquérir des armes, en particulier en jouant le rôle de milice supplétive pour le gouvernement, et que maintenant, elles utilisent ces armes essentiellement pour se battre les unes contre les autres.
Les chiffres publiés par l'International Crisis Group sont quand même assez effarants. Vous mentionnez qu'environ 450 000 personnes ont été déplacées en 2014 et près de 100 000 en janvier 2015.
En fait, ce ne sont pas nos chiffres, d'ailleurs, ce sont des chiffres des Nations Unies. Ils sont larges et relativement approximatifs. Ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder l'année 2013, où il y a eu des conflits justement entre milices arabes autonomes échappant au contrôle du gouvernement, où il y a eu déjà 450 000 déplacés. Et en 2014, la même chose, 450 000 déplacés. Donc on peut dire que depuis le début 2013, on en est effectivement à 1 million de déplacés, ce qui est assez comparable à la période la plus intense, la plus violente de guerre au Darfour en 2003-2004. Même si la violence est quand même un peu moins étendue aujourd'hui.
Le président Omar Hassan al-Bashir ne contrôle plus le pays ?
Il contrôle quand même le pays et les rouages de l'État. Il a d'ailleurs, ces dernières années, beaucoup accentué son contrôle sur un premier cercle, notamment militaire, sur l'appareil sécuritaire. Le pouvoir s'est durci. Pour autant, l'État soudanais, et ce n'est pas propre au régime de Béchir, les régimes avant lui également, ont toujours eu du mal et se sont toujours montrés incapables de contrôler, disons, la totalité du pays, aussi bien militairement que parce qu'ils ont échoué en fait à avoir une présence de l'État plus positive que sécuritaire. En particulier, une des grandes causes des conflits au Soudan, c'est l'absence de développement et de services, d'éducation, de santé dans les périphéries du pays. Donc c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, évidemment.
Et les revenus du pétrole ?
Alors les revenus du pétrole, malheureusement, n'ont été que très peu utilisés pour cela, même si ils ont donné au pays pendant quelques années la possibilité de faire des choses. Et ils ont été d'ailleurs à ce moment-là, au moment du boom pétrolier, le régime était plus à l'aise. C'est ce qui lui a permis de partager notamment les richesses avec ce qui est devenu le Sud-Soudan et qui était à l'époque un gouvernement autonome. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ni le Soudan du Nord, ni ce qui est devenu le Sud-Soudan, n'ont vraiment utilisé leur richesse de l'époque, la richesse pétrolière, pour leur population. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils continuent à utiliser l'essentiel de leurs ressources pour d'abord militairement et sécuritairement alimenter leurs importants budgets militaires et sécuritaires, mais aussi pour toutes sortes d'activités plus que de développement à long terme, de patronage.
Jérôme Toubiana, analyste de l'International Crisis Group, au micro de Camille Grosdidier. Du nouveau dans la lutte contre le virus Ebola, une équipe de chercheurs de l'Université de Texas, associée à la compagnie canadienne Techmira Pharmaceuticals, vient de développer un traitement expérimental appelé TKM Ebola. Dans un essai effectué sur des singes, ce traitement s'est montré efficace contre Ebola, selon un article publié dans la revue Nature. Le docteur Dambitan Kossi, chercheur à l'université Johns Hopkins, fait le point sur ce nouveau traitement.
Ils ont fait une avancée majeure dans la quête pour un traitement efficace, ciblant particulièrement l'espèce du virus Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest. Pour mémoire, jusqu'à présent, un traitement similaire, celui de ZMapp par exemple, a été administré plutôt dans l'espèce Zaïre. Cela étant dit, ce traitement est un peu comme le ZMapp. C'est une compagnie américaine, Techmira, qui l'a mise au point. Il y a eu des études in vitro et l'efficacité maintenant a été mise au test dans 6 singes macaques.
Ce nouveau traitement vous apparaît-il très encourageant ?
Bon, c'est un traitement qui a des promesses, mais nous ne sommes qu'à l'aube. Hein. C'est une course de fond. Nous sommes à l'étape de l'expérimentation dans l'espèce animale. Il faudra maintenant, après avoir ajusté la dose, commencer l'expérimentation dans l'espèce humaine. Et si ces promesses-là sont maintenues, ce genre d'essai clinique ne pourra démarrer que peut-être en fin d'année, sinon en début d'année prochaine dans l'espèce humaine.
Et en général, il faut combien de temps entre les débuts des essais sur l'espèce humaine et l'arrivée des médicaments et des traitements dans les pays concernés ?
Là, vous savez, hein, des fois, nous parlons de plusieurs années, hein. Parce que on peut démarrer une expérience, mais on ne sait pas avec les aléas du terrain et le financement et beaucoup d'autres imprévus. Et on ne sait jamais. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu autant de ressources qui ont ciblé le Ebola. Et je trouve que ça, c'est un développement très, très encourageant.
Docteur Dambitan Kossi, chercheur à l'université Johns Hopkins, a noté que jusqu'à présent, aucun traitement contre le virus Ebola n'a été homologué, mais plusieurs molécules, certaines expérimentales, et plusieurs vaccins ont été testés ou sont en cours d'évaluation.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music. Les anciens et nouveaux morceaux de la musique africaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Morgane Guiriec au micro, Annette Burtson à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.
cœur de l'info.